Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçons de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, on est chez Sarah.
Salut Enzo.
Salut Sarah, comment va ?
Ça va, raisonnablement. Enfin, comme tout le monde, je pense peut-être l'approche des fêtes un peu, et puis le confinement à la maison, mais ça va.
C'est ça.
Et puis, contente de faire partie du podcast.
Ah bah, ultra content que t'aies accepté.
Et de te rencontrer d'ailleurs.
Mais c'est ouf, trop bien. On s'était écrit, je crois, d'ailleurs, je crois que t'avais commenté un post. Commenté un post sur LinkedIn, et je t'avais écrit, j'avais vu ton profil, j'ai dit, mais toi, il faut trop que tu viennes, tu dois avoir des trucs de ouf à dire, et je pense que ça va être le cas, du coup.
De ouf, je sais pas, mais voilà, je suis là pour partager, j'aime ça, donc cool.
Et bah, trop bien, rentrons direct, t'es qui, Sarah ?
Alors, donc Sarah, effectivement, je suis jeune retraitée à l'EPEDAM, en fait. J'ai été pendant plus de 25 ans en équipe de France à l'EPE, donc j'étais escrimeuse. J'ai eu deux titres de championne du monde, surtout, et une médaille de bronze, une médaille olympique aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, plus quelques titres de Coupe du Monde, des médailles aux championnats d'Europe, etc., etc. Donc escrimeuse pendant plus de 30 ans, et puis je pense peut-être à vie même. Et puis voilà, je viens de la Guadeloupe, une petite île à 8000 km de Paris, où l'escrime, c'est pas le premier sport qui ressort. Hein, et puis, puis voilà, quoi, pas simple du tout. Et en parallèle, enfin maintenant, en reconversion, en changement de vie, puisque j'ai arrêté le sport maintenant, en 2016, pour après les Jeux de Rio. Je travaille dans le digital maintenant, enfin dans la data science en l'occurrence. Et puis voilà, c'est moi, welcome.
Trop stylé. Pour ceux qui écoutent, vous voyez, je me fous pas de votre gueule. Hein. On a quand même quelqu'un qui a rapporté des médailles olympiques. Donc on va parler, vous doutez bien, d'échecs sportifs. Est-ce que du coup, tu peux nous donner ta définition à toi, ta vision en tout cas de l'échec aujourd'hui, Sarah ?
Moi, je pense que j'ai deux, entre guillemets, définitions de l'échec. Parce que déjà, l'échec, entre guillemets, enfin... Ce qu'on appelle échec, en tout cas, fait partie de la vie de l'athlète, qui peut prendre pas mal de formes. Hein. Alors, ne pas être sur le podium, d'accord, ne pas gagner la compète, mais ça peut être aussi une blessure, ça peut être pas mal de choses. Et puis surtout, en fait, on est toujours confronté à l'échec, parce que y a que trois places sur le podium, c'est très con, mais il y en a trois. Quand je regarde aussi, on est des milliards sur Terre, on est quelques milliers à avoir fait les Jeux Olympiques, et on est encore quelques milliers parmi ces milliards de personnes à être médaillés olympiques. Donc ça aussi, avec le recul, on se rend compte que c'est... moi, avec le recul, en tout cas, je me rends compte que c'est quand même balèze. Parce qu'au début, je ne me rendais pas tant compte que ça. C'est les retours de chacun. Donc il y a le petit échec, c'est-à-dire que vous avez un objectif qui est de gagner une médaille olympique. Et vous avez des étapes en fait qui valident votre parcours, si vous avancez dans le bon sens ou pas, s'il faut rectifier un peu la trajectoire. Et en fait, ces étapes, je sais pas, c'est des coupes du monde, des championnats du monde, des championnats de France, des choses comme ça. Et effectivement, pendant ces périodes-là, on peut se vautrer, on peut ne pas gagner la compète, mais ça reste des échecs parce qu'on ne gagne pas, mais ça reste des échecs de validation, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y en a deux. Donc c'est ceux-ci, en l'occurrence. Et le pire, le vrai échec, pour moi, c'est celui qui fait vraiment... je vais parler... En plus, je suis chez moi, donc je vais prononcer... je vais utiliser les mots que j'utilise en temps normal. C'est celui qui fait vraiment mal à la gueule, quoi. L'échec, c'est... le vrai gros échec, c'est l'objectif auquel on tient énormément et qui, en fait, quand on se le prend, en fait, il n'y a plus rien qui compte. On est déstabilisé, on a une espèce de souffrance, mais aussi bien physique que mentale. Et on a l'impression que... Et le pire, en fait, avec ce genre d'échec, moi j'en ai connu un terrible, on va y venir de toute façon, mais on a l'impression que, en fait, l'échec, ça devient nous, alors qu'à la base, c'est un acte, mais ça devient nous, ça prend une part tellement importante que... on a l'impression de ne plus être capable de rien, en fait. Donc c'est ça, pour moi, la définition de l'échec, c'est celui qui fait vraiment, qui vous ramasse, en fait, qui vous découpe.
C'est ça, en fait, d'accord. Une grosse claque dans ta gueule où, sur le coup, tu penses que tu peux pas t'en relever, quoi.
Ouais, c'est ça.
Clairement. Ouais, j'ai bien aimé aussi le côté autant physique que mental.
Ah ouais,
c'est
totalement.
Clairement ça. Ça te bloque, en fait, ça te paralyse et tu te rends compte que tu sais plus rien faire, quoi.
Ouais.
T'as plus envie de te lever de ton plumard, c'est Netflix et, rien d'autre.
En fait, tu te demandes même si t'es capable. Si t'es, est-ce que t'as bien fait d'aller sur ce truc-là ? Est-ce que t'avais vraiment ce qu'il fallait en fait pour y aller.
T'avais envie de dire les couilles. T'avais envie de dire les
couilles. Ce que je voulais dire. Ouais, tu te demandes si t'as pas vu viser trop haut ou autre. Et en fait, tu vois, le premier truc qui te vient à l'esprit, mais est-ce que j'en suis vraiment capable, quoi ? Est-ce que j'en suis capable ? Et du coup, on s'identifie à cet échec alors que ça reste toujours un acte. C'est pas qui on est. Et c'est horrible. C'est horrible.
Oui, d'accord. Bah, écoute, on va parler à toi d'un de tes plus beaux échecs, même comme tu disais, avec ton principe de palier. Donc, comme tu dis, t'en as vécu beaucoup. Il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres. Je l'introduis après, je te laisse bien sûr tout expliquer. C'est du coup ton échec au JO, parce qu'on a parlé tout à l'heure que t'avais gagné du coup une médaille.
Ouais.
Mais derrière, après, on n'a pas réussi à réitérer, quoi, c'est ça ?
Oui, c'est joliment dit. C'est pas vécu de la même manière que c'est dit. Mais
tu vas nous le dire justement comment tu l'as vécu.
Alors sur le plan sportif, effectivement, j'en ai eu pas mal. Et y en a un qui m'a toujours fait super mal. C'est celui des Jeux Olympiques de Londres 2012. Alors en fait, l'équipe de France épée féminine, pour se qualifier aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. On a galéré, On s'est qualifié à la dernière compète en Allemagne, pas grand-chose, mais on s'est déchiré, on a été unis, on a été confiante, on a bien fêté ça, mais on a galéré et on s'est qualifié au dernier moment. Pékin, on n'a pas eu d'épreuve pour notre sport hein, par équipe. Et ensuite sont venus les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et là, pareil, on a galéré, on s'est battu, on a été jusqu'au bout, etc. Sauf que la dernière compète, en fait, elle a eu lieu chez nous. Elle a eu lieu chez nous à Paris, avec notre famille, nos amis. On leur a demandé de venir, ils nous ont supportés, ils nous ont encouragés, ils nous ont portés. C'était fort, c'était important. Sauf qu'on s'est vautré, en fait. et on s'est vautré à pas grand-chose, mais on s'est quand même vautré, que ce soit pas grand-chose ou pas, mais on s'est vautré. Et ouais, pour moi, ça a été le plus gros échec en fait de ma carrière, parce que justement, même si on était parti pour se prendre le mur, comme ça a été le cas en 2004, et finalement on a pu se qualifier au dernier moment se qualifier au dernier moment et partir et ramener la médaille. Là, en 2012, on a aligné la même équipe en fait de 2004. On s'est dit qu'on va repartir dans le même état d'esprit, confiante, on va faire un hold-up et ça va le faire. Et en fait, on s'est vautré. Et où ça a été, où sans conteste, c'est l'échec le pire, c'est que j'avais jamais autant souffert en fait de mon sport en tout cas. Et d'ailleurs, le lendemain ou le surlendemain, mais franchement, c'était tellement violent que je dirais le lendemain, je suis rentré chez moi en Guadeloupe, retrouvé les bras de ma mère et puis mon île, que ça me fasse du bien. Donc quand j'ai besoin de me ressourcer, je rentre chez moi, je suis gourmande, donc en plus ma mère aime bien cuisiner, elle me fait des petits plats et tout, aller à la plage, se ressourcer, prendre un bain de mer et puis regarder un peu l'horizon. Et en fait là j'avais tellement mal que je mangeais pas, je suis quasi pas sortie, je dormais pas, j'étais un zombie quoi, il n'y avait plus d'envie, en fait. Il n'y avait plus aucun intérêt à rien. Et... Alors que c'est que du sport avec du recul, mais...
Mais t'as donné beaucoup avant d'arriver là, justement. C'est beaucoup de sacrifices, c'est l'espérance de se qualifier, c'est...
C'est beaucoup de choix, ouais. C'est beaucoup de choix. Une qualif olympique, c'est minimum 4 ans. Donc pendant 4 ans, vous faites que... Enfin, au moins 3 ans, vous faites que ça, en fait. Vous mangez olympique, vous douchez olympique. Moi, je suis une fêtarde, je vis un peu la nuit, De toute façon, le projet est tellement important que vous n'avez pas envie de faire la fête ou de manger des litres de glace ou de pizza, parce que oui, j'aime bien la junk food quand même. Donc il y a des choses qui viennent plus à vous, parce que le projet, en fait, s'impose à vous. Mais là, c'était... en plus, j'en parle pas beaucoup, et pour le coup, ça me remue toujours un peu, cet épisode. Il a été horrible, parce que au final... dans l'équipe, en fait, on n'allait pas toutes dans le même sens, déjà. Donc, cette force qu'on a eue auparavant, cette union, unicité, ce courage ensemble, tout ce qu'on veut, en fait, cette confiance, en fait, elle n'était pas là. Et c'est aussi pour ça que ça a fait autant mal, où j'avais l'impression que, tout s'effondrait, en fait. Pour moi, tout s'effondrait. C'est autant d'investissements et pour finalement avoir tellement mal, une douleur physique importante mais mentale. Et puis ma mère, enfin le déclic, si tu permets que j'enchaîne là-dessus,
bien
c'est
sûr.
Que enfin quelques déclics en l'occurrence, ça a été ma mère en fait, les mots de ma mère qui ne m'avait jamais vu autant souffrir en fait. Je suis vraiment gourmande, hein, c'est pas
cette période là dont tu parlais juste quand t'es revenu du coup chez toi en Guadeloupe et où t'étais au fond du seau, ça a duré combien de temps? Parce que t'es parti direct le lendemain, tu dis donc comme ça, tu dis
moi. Je pense que je suis resté peut-être 10 jours, 2 semaines là-bas, je sais plus. J'ai plus cette notion. J'ai vraiment la notion de la sensation, par contre, malheureusement, mais peut-être 10 jours, 2 semaines, je sais plus.
Okay.
Et mais de toute façon, pendant des mois, j'ai eu mal. Pendant des mois et des mois, j'ai eu mal. Où ça s'est un peu calmé, c'est que les mots de ma mère là-bas sur place, qui a fait ce qu'elle peut. Enfin, elle a fait comme elle pouvait, en fait, parce que même si des fois les mots ou les phrases n'étaient pas forcément justes, comme beaucoup de personnes disent quand un athlète perd, c'est pas grave.
C'est pas grave, il y en aura d'autres.
Si, c'est grave. Dites pas ça, c'est grave. Mais, on s'en remet, c'est surtout ça. Donc, les mots de ma mère, et puis... j'en ai profité aussi pour voir un peu ma famille élargie, mais là aussi ça a été un peu ça m'a fait du bien. Et ce qui a été vraiment salvateur pour moi, c'est que j'ai fait le choix d'aller à Londres, alors que je sais que d'autres mes coéquipières n'ont pas regardé les jeux, n'y sont pas allées, elles n'ont pas allumé la télé ni la radio, elles se sont vraiment mises sur une île où il n'y avait aucune information là-dessus, ce qui n'est pas simple, mais c'était leur façon en tout cas de passer ça.
Hein.
Ouais. Moi, je suis allée à Londres. Ça m'a fait, au début, ça a été violent, j'appréhendais beaucoup et au début, ça n'a pas été simple. Et en fait, de voir mes potes, en l'occurrence à l'épée homme, et puis dans d'autres sports cartonnés, ça, la joie petit à petit a pris un peu de place et... ça fait un bien fou, en fait. Et puis d'être là-bas aussi. D'être là-bas, de regarder la compète de l'épée d'âme. Ça a été...
Tu bouclais la boucle un peu, en fait. Tu avais prévu d'y aller dans ta tête. Et donc, même si là, tu n'y allais pas en tant que compétitrice...
Pendant longtemps, quand même. J'ai hésité à ne pas y aller. Hein, quand même. Pendant longtemps, je me suis dit que je n'y allais pas, d'ailleurs. Mais en fait...
C'est les mots de ta maman, justement, qui ont fait le déclic, qui a fait que tu es partie. Ou c'est quoi le déclic qui a fait que tu t'es dit « Bon, j'y vais quand même, on
verra bien. » Alors, ma mère, les mots sont de ma mère, ou même de mon entourage, en fait, parce que l'entourage joue un rôle important dans ce genre de cas. C'est les personnes avec qui vous vivez, votre entraîneur, parfois, ou des potes. L'entourage joue un rôle qui vous permet aussi de ne pas totalement vous noyer, en fait, de pas totalement vous perdre, parce qu'il est facile de tomber dans des choses pour essayer d'oublier la douleur, en fait, mais ça ne règle pas le problème pour autant. Et puis aussi le fait de se rappeler que finalement j'avais quitté la Guadeloupe, donc que j'avais fait plus de 8000 km pour venir à l'internat à Bordeaux. Et finalement, ne pas rentrer chez moi le week-end, ne pas rentrer chez moi pendant les vacances, passer mon premier Noël seul, etc. etc. Et en fait, de se rappeler que j'en avais chié pour être là et que c'était peut-être pas fini, en fait. Donc, le cumul de tout ça et des personnes qui ont été là aussi a été salvateur, quoi, pour moi, en tout cas.
On se rend pas compte, hein, mais en tant que sportif de haut niveau, il y a justement, comme tu disais tout à l'heure, on est des milliards, il y a extrêmement peu d'élus, parce que ça demande des sacrifices de mutants très très jeunes, en fait. Moi, je sais que typiquement, j'ai fait beaucoup de sport, mais je suis du coup très très loin et j'ai pas eu, on parlait tout à l'heure, les coronets, justement. J'avais pas le courage à l'époque de me dire, je quitte ma famille,
je sacrifie tout ça pour mon sport. Pourtant, j'adorais mon sport, je mangeais, je dormais, tout ça, mais c'est une vie de...
Ouais, c'était dur.
C'est une vie très dure, ouais, d'être des sportifs de haut niveau. Ça demande un effort, ça demande une force mentale.
Un engagement qui est physique très important et qui, en fait, l'objectif étant... Alors, chacun son objectif, chacun son niveau. L'objectif étant tellement important que vous êtes obligé de vous engager. Et en fait, plus vous engagez, même si vous êtes bon ou mauvais, c'est pas la question de niveau, plus vous vous engagez, en fait, et plus vous croyez en votre objectif. En fait, c'est une spirale. On y croit, on peut se casser la gueule, et en fait, on y croit tellement qu'on peut récupérer plus vite d'une blessure. On y croit tellement qu'on s'engage un peu plus. On y croit tellement qu'on se fait une double fracture au pied, et en fait, on travaille différemment, la main, en attendant la reprise, et que quand on revienne, bah, en fait, on est plus fort qu'on l'était avant, alors qu'on a 3 mois dans les pattes, justement, pas dans les pattes, de retard par rapport aux autres. En fait... c'est une spirale. On a un objectif, plus on y croit, plus on s'engage, plus ceci, plus cela. Et en fait, au bout du compte, on finit soi-même par se forger un mental d'acier et être présent, en fait. C'est très con, hein, mais moi, je reste vraiment encore persuadé, et ça choque et surprend encore des gens, mais ouais, on est des milliards. Oui, on est quelques milliers à être... des milliards sur Terre, je veux dire, et quelques milliers à être en médaille olympique. Mais on est tous capables de faire une chose importante, tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire au sens propre du terme. On n'est pas tous capables d'être médaille olympique, on n'est pas tous capables d'être présidente d'ailleurs de la République, par exemple. On n'est pas tous capables d'être président d'Amazon, j'en sais rien, peu importe. Mais on est tous capables de faire quelque chose de différent, en fait. Mm-hmm. Et on est tous capables de faire quelque chose qui peut amener de l'extraordinaire dans sa propre vie, tout comme dans la vie de quelqu'un d'autre, en fait.
Qui a du sens pour soi, ouais.
Exactement. On est tous capables de switcher, et pour ça, si tu y crois pas, ça marche pas. Et comme je disais, cette spirale amène justement à tout ça, en fait, à se forger de plus en plus un mental. Beaucoup de personnes pensent que les sportifs de haut niveau sont des dieux, qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont forts, qu'ils ont un mental, qu'ils ont plein de trucs, tout ce que tu veux. Alors moi, pendant longtemps, j'y croyais pas à ce truc-là, mais aujourd'hui, j'y crois parce que j'ai compris pourquoi j'y croyais pas et pourquoi. En fait, c'est que à la base, on est comme tout le monde. On n'est pas tous. On peut être doué pour quelque chose, mais on n'est pas des surhommes, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on fait le choix de switcher, de se dire que c'est possible. Et pourtant, moi, j'avais des gens autour de moi qui me disaient « tu vas jamais y arriver, tu vas jamais t'en sortir. En plus, tu viens de la Guadeloupe, l'escrime, c'est un sport de Bourges. » Enfin bon, la liste est longue. Mais on est tous capables de switcher et puis surtout de passer à l'action, en fait. Parce que, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent être des Teddy Riner. Alors qu'en fait, ce serait bien qu'ils soient les futurs eux, surtout. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'autres qui veulent être des Mbappé. Il faut toujours... je parle comme de, entre guillemets, certains journalistes, et c'est vraiment un propos dont j'ai horreur. Vous serez toujours les futurs vous et pas les futurs quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout qu'à un moment donné, il faut y croire, il faut bien s'entourer et il faut y aller, en fait. Il faut switcher, il faut passer à l'acte. Mm-hmm. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. On n'est pas plus différent que d'autres, on n'est pas plus capable d'eux, c'est juste qu'à un moment donné, on y va.
Et ça a été quoi, du coup, les petites actions? Donc, si on contextualise un peu, donc, vous ne qualifiez pas. Non, mais c'est bien, t'es là pour ça, hein, c'est toi l'invité. Mais donc, vous vous plantez malheureusement lors des qualifs, tu repars, tu prends un peu de force avec ta famille, tu reviens, du coup, tu fais les jeux, en tant que spectatrice, du coup, à Londres. Et c'est quoi, du coup, après les actions qui te permettent de remonter la pente à ce moment-là où ça ne va pas bien? Qu'est-ce que tu fais après ça?
Ce qui a été aussi salvateur pour moi, alors même si c'était mon métier, c'est que pendant cette période, en fait, j'ai pas pratiqué de sport. Enfin, j'ai pas fait d'escrime. Parce que j'ai fait du sport. Je me suis mise au taekwondo pendant un moment. C'est génial parce qu'en fait, la boxe, déjà, c'est assez proche de l'escrime au niveau des déplacements. Donc, c'est pour ça aussi que parfois, on s'entraîne avec des boxeurs. Sauf que l'escrime, c'est devant-derrière, et à la boxe, on a en plus les déplacements sur les côtés. Donc, le taekwondo, j'étais plutôt pas mal aussi au niveau des déplacements, ça allait, et puis de la longe. Donc, alors en plus des mots de ma mère, la Guadeloupe, etc., mon entourage, ce qui a été salvateur, c'est aussi de taper dans quelque chose. Hein.
T'extérioriser la haine que ouais. t'avais à ce moment-là. Ouais,
ouais, ouais, taper dans un sac. Voilà, donc la boxe était pas mal. Et puis le taekwondo, ça m'a fait un bien fou. Et en plus, j'avais l'avantage sur l'allonge ou des choses que j'avais appris avec l'escrime. Donc, c'était assez, c'était plutôt pas mal là-dessus. Et j'ai perdu ta question, je crois.
Non, c'était les petites actions que tu mettais. Donc tu dis que t'as arrêté de faire du sport.
Ouais.
J'ai arrêté de faire de l'escrime.
Et du coup, hein, ouais. quand ça a été mieux, en fait, plus le fait de voir mes potes revenir, etc., et gagner ou être médaillé au jeu et autres, en fait, ça m'a et vraiment cette distance avec l'escrime m'a fait du bien. Je pense que je l'ai encore plus désiré, en fait. J'ai eu encore plus envie de revenir, de me faire plaisir. Moi, l'escrime, ça. Enfin, j'ai commencé l'escrime moi, à 3 ans et demi, donc vraiment très jeune. Et pour moi, ça a été un moyen de très vite déjà de m'en sortir dans la vie. Mais ça aussi a été un moyen d'évacuer des choses pas forcément drôles qui me sont arrivées ou arrivées à d'autres personnes proches de moi. Ça a été salvateur, en fait. Donc,
ça t'a permis aussi de développer une autodiscipline très tôt aussi.
Ah oui, oui, ouais, bien sûr. Donc, y revenir, ça a été à nouveau... Enfin, voilà, quoi. C'est comme quelqu'un avec qui vous êtes et vous vivez depuis des années. Et en fait, il y en a un qui part 6 mois bosser à l'étranger. Et quand vous vous retrouvez alors que vous kiffez... Ah, voilà, je pense que c'est à peu près la même sensation, en fait. C'est mon amour de toujours, en fait, l'escrime. Voilà.
Et t'as arrêté combien de temps, du coup ? Chaque fois, je pose des questions sur le temps, mais c'est pour qu'on voit à peu près le temps de deuil de chacun, parce que c'est toujours très différent, parce que ça peut prendre du temps, parfois.
Ah, mais même à la reprise, c'était encore présent, de toute façon. Encore une fois, les échecs sont tous différents, mais celui-ci, il était vraiment violent, parce que c'était... on a été trahi en fait par une personne de notre équipe en fait qui en l'occurrence n'allait pas dans le même sens que nous toutes, donc forcément c'était plus douloureux.
J'allais te demander ça tout à l'heure, pardon, je te coupe en pleine phrase, c'est que l'échec du coup vous l'aviez assumé collectivement, parce que là on parle, c'est un sport indiv à la base aussi d'escrime, mais aussi qui est collectif.
Je pense qu'on l'a assumé individuellement. Okay. Parce qu'on en a tout chié, en fait. Je pense okay. que vraiment, on peut pas le dire autrement. Et puis même au niveau des entraîneurs, parce qu'on parle souvent des athlètes, mais les entraîneurs aussi, ils s'investissent. Donc notre entraîneur aussi, ça n'a pas été simple pour lui. Tout comme ça n'a pas été simple pour notre préparateur physique ou notre kiné. Voilà, il y a quand même une personne de l'équipe qui a pu partir faire la compète en individuel. Donc l'entraîneur aussi, il faut qu'il se remette dedans. Mais je pense qu'on a toutes... individuellement déjà fait sortir ce qu'on devait faire sortir de nous, enfin chacune. Et puis de toute façon, on en avait besoin. Moi, j'étais déjà pas capable de manger et de sortir. Alors j'avais encore moins envie de parler de quoi que ce soit à qui que ce soit. Et même quelqu'un qui me comprenait. Hein. Si je prends l'exemple de Maureen Nizima, qui était ma coéquipière la plus proche de à l'époque et qui est toujours une très bonne amie, ben, en fait, on s'est appelé très tardivement. On s'est appelé un peu au début et puis après très tardivement parce qu'on se comprenait et qu'on avait besoin d'en parler, mais aussi on avait aussi besoin de souffler et puis on se refaisait le film. On s'est dit les mêmes choses, on s'est refait le film plus d'une fois. C'était vraiment cauchemardesque, en fait. Moi, ça me réveillait la nuit. C'était horrible. Mais donc oui, on l'a vu, on l'a individuellement et ensuite de manière collective parce que en fait, même si c'est un sport individuel, et c'est aussi un sport collectif, mais en fait, ça marche pas si on n'est pas tous ensemble, en fait. Même si on se tape dessus et qu'on est potes en dehors, mais ça marche pas si on travaille pas ensemble. Donc, il a aussi fallu, bien évidemment, pour avancer, en parler et travailler ensemble, bien sûr.
Ouais, on change pas une équipe qui gagne. C'est drôle parce que ça... c'est marrant ce dicton de con parce que
très
ça
bien.
Arrivait plein de fois. C'est arrivé, on se rappelle, tu sais, enfin, je parle aussi sport co, puis c'est du sport masculin, parce que c'est le truc qui me vient. Équipe de France 98, oh, en oui. 2002, on se fait sortir des poules. Je crois que c'était pareil avec l'Espagne, là, récemment. Enfin, tu vois, c'est fou, ça, hein, ce truc de dire, on reprend les mêmes, on va repartir. Et en fait, est-ce qu'il y a un truc où quand tu gagnes, est-ce que ça joue aussi le fait d'avoir peut-être déjà gagné ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas ce truc, tu sais, un peu cliché, comme on l'a vu avec Rocky à l'époque, où t'es plus outsider, t'as plus, tu vois, cet œil du tigre, tu vois ce que je veux dire?
Je pense que ça joue parce que, en fait, quand il n'y a pas de médaille olympique depuis un moment, et qu'il y a 4 nanas qui arrivent à l'épée dame et qui fracassent tout, elle ramène une médaille, elle fracasse tout, ensuite elle ramène une médaille des Jeux. Ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'elle s'apprécie pas, c'est pas ça le sujet. C'est qu'elles sont capables d'aller, en tout cas, toutes vers le même objectif. Donc ça veut dire qu'elles se connaissent quasi par cœur, qu'elles se connaissent mieux que leur partenaire de vie se connaît, enfin les connaît, parce qu'il faut les connaître, en fait, ça, il faut le savoir. En fait, on passe quand même énormément de temps ensemble. Pendant les voyages, les entraînements, les compétitions, dans les vestiaires, enfin, on connaît quand même pour certaines le centimètre carré du corps en fait de l'autre quoi, presque. Enfin, ça devient vraiment presque de l'intime. Enfin, faut bien comprendre ce que je dis. Hein, faut pas. Et puis, je pense que. Ouais, je pense que là j'ai perdu ton j'ai perdu ta question parce que c'était dans mes propos, tout dans ma tête.
Tu visualisais.
Qu'est-ce que tu m'as demandé?
Moi-même, je sais plus où on en était.
Ah
là-dessus,
oui,
je t'écoutais.
Et du coup, par équipe, on se connaît tellement qu'on sait qu'on est capable de faire énormément de choses ensemble. Du coup, si ça se concrétise par une médaille ou enfin, quel que soit le truc, ça se concrétise par une victoire ou un podium. En fait, ça fait que on a été capable. Encore une fois, qu'on s'apprécie, qu'on ne s'apprécie pas, tout ce qu'on veut, on a été capable on a été capable d'y arriver, en fait. On a été capable d'avoir cette médaille. On a été capable d'aller à l'encontre de ce que dit un tel ou un tel. Donc, on peut se dire qu'on se connaît tellement et qu'on est tellement fortes ensemble et qu'on est capable de faire front que des années après, si on va toutes dans le même sens, en fait, on est encore capable d'être fortes. Le seul problème avec ça, donc que ça soit parce que tu prends l'exemple de la Coupe du Monde de 98, qui est un exemple qui me parle, et je prends donc nous notre exemple en l'occurrence 2004 et 2012, ça, encore 2008, 2008 on n'avait pas des chances par équipe chez nous. En fait, le truc c'est que oui, on est capable parce qu'on a cette force en nous et qu'on l'a déjà vécu toutes ensemble, individuellement et toutes ensemble, et individuellement au sein du groupe aussi. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'est de l'expérience et de l'expertise. C'est des choses qu'on acquiert avec le temps. Mais il ne faut pas revenir la deuxième fois quand vous revenez avec la même équipe. Il ne faut pas revenir avec la même. Enfin, même si l'objectif est le même et l'intention est la même, mais il ne faut pas revenir avec le même niveau, en fait. Il ne faut pas que vous reveniez en vous disant « on refait pareil ». Déjà, il faut que vous reveniez avec un niveau supérieur à avant. Ce qui me semble être logique maintenant, avec du recul. Et puis, il y a des choses à changer, en fait. Vous ne pouvez pas revenir en étant les mêmes personnes, quoi. Vous avez appris des choses entre-temps. C'est un peu dommage de, entre guillemets, les mettre de côté pour revenir à ce que vous étiez pour la même équipe, même si ça a fonctionné, en fait. Et ça aussi, je pense que ouais, ça nous a fait défaut, ouais.
Tu fais une parfaite transition pour la prochaine question. J'allais te demander, du coup, aujourd'hui, ce qu'il en ressort positivement ou négativement, du coup, de cet échec. C'est quoi un peu les impacts qu'on peut avoir, comme je te dis, qu'ils soient positifs ou négatifs, du coup?
Alors, côté impact, alors moi, le pire, la pire sensation, c'est que, comme je disais, c'est que c'était la première fois qu'un échec prenait autant d'importance, en tout cas dans mon sport. Et mon gros souci, ça a été que jusque-là, un échec, on le prenait en pleine poire et à chaud, tu réfléchis et tu notes en fait ce qui te vient. Tu notes. Et en fait, après, tu prends un peu de recul et tu prends le temps de souffler, de penser à autre chose, si tu y arrives. Là, c'était pas le cas. Mais le temps de penser à autre chose. Et de te ressourcer, de faire quelque chose, et ensuite de revenir et à froid, de sur le papier de noter en fait encore des choses qui te viennent par rapport à cet échec-là, et ensuite te dire voilà ce qui a été, ce qui a pas été, et ensuite t'as ton prochain objectif, et ensuite voir comment tu te prépares en fait pour ce prochain objectif. Celui-ci, il a été terrible parce qu'en fait j'étais pas capable, J'ai jamais fait. J'ai pas été capable à un moment donné. Je le dis, je souris et je ris là, mais c'est nerveux en fait, je m'en rends compte. Que j'ai pas été capable à un moment donné à chaud. Pourtant, je pense que ça a été chaud pendant des mois dans ma tête de noter les choses qui n'ont pas été et ce qu'il aurait fallu faire et ce qui nous a manqué. Et ni à froid d'ailleurs, toujours pas. Parce que, en fait, cet échec, j'avais l'impression d'être devenu cet échec, en fait. Donc, pour moi, ça a été la pire chose parce que j'avais l'impression que j'étais plus capable de rien, que j'étais, entre guillemets, bonne à rien, que je servais à rien. Enfin, il y avait beaucoup de choses négatives, enfin, c'est... Donc, il y a forcément le doute a commencé à prendre de la place, à se dire, ah, toi, je vais te dévorer. Donc, la confiance qui a toujours été une force, petit à petit, en fait, elle s'est fait dévorer, quoi. Donc, les impacts aujourd'hui, en négatif, c'est que moi, ça a changé en fait ma perception de moi-même pendant un moment. Ça a amené le doute, donc forcément une perte de confiance en moi pendant un moment. Et je pense que j'en ai encore. J'ai pas encore trouvé la posture que j'avais avant, en tout cas, j'en ai conscience. Donc après, ce aussi dont j'ai conscience, c'est que si ça, cette force, cette rage. Tout ça, ça a été là avant. C'est que si c'est là, c'est que je peux retrouver le chemin en fait pour y accéder. Donc voilà. Et la confiance en les autres en fait, parce qu'encore une fois, on n'allait pas toutes dans le même sens à cette période-là. Donc ça a eu un impact là-dessus. Par contre, les choses positives, c'est que il y a des choses qu'on sent. je pense que entre guillemets, on maltraite tellement son corps quand on est sportif de haut niveau, on maltraite tellement son corps physiquement, mais aussi mentalement, qu'on finit par avoir, je sais pas comment dirais-je, mais une espèce de sens qui se développe en fait. Moi, le nombre de blessures que j'ai eues, je sentais en fait que j'étais à la limite, mais avec du recul, je sais que c'est là en fait. Et là, pareil. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas dans cette équipe-là, qu'il y avait un truc qui... Et il y avait une espèce de sens, et je me dis, ben non, quand même, je veux bien la notoriété, plus d'argent, on est face aux médias, il y a tout le monde qui nous tombe dessus si elle fait son truc toute seule. Mais je me disais, ben non, elle peut pas aller jusque-là, ben non. Ben si. Et en fait, c'est ça, en fait, me refaire confiance en fait au niveau de mes perceptions de ce que je ressens voilà, il y a eu beaucoup de négatifs mais je sais que ça reste avec du recul aujourd'hui, je peux le dire, même si j'ai eu un petit moment de chaud un moment quand on en parlait. L'échec reste toujours un point qui te permet d'évoluer, de grandir en fait. Nous, on en a 150 millions dans notre carrière sportive. Donc, celui-là, il fait mal. Encore aujourd'hui, c'est plus une souffrance, mais c'est encore une blessure, encore un peu. Mais pas de l'échec lui-même, mais plutôt de la façon dont les choses se sont passées avec cette personne en qui nous avions confiance, en l'occurrence. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a permis d'apprendre et de grandir. Donc, d'apprendre sur moi. D'apprendre sur les autres aussi, ce qu'ils sont capables de faire, ce que moi je suis capable de faire. Et puis, je n'aurais jamais pensé être capable d'avoir une souffrance mentale aussi importante. Et aujourd'hui, voilà, il faut vraiment que les gens se rendent compte que, ouais, il y a des choses dans la vie qui nous bousillent. Moi, je parle de sport parce que j'interviens parce que j'ai été médaillé olympique et médaillé mondial, mais. J'ai perdu mon père il y a quelques temps. Il y a des gens qui vivent des choses horribles dans la vie. Mais il est toujours possible, en tout cas, à un moment donné, de croire en quelque chose, un objectif qu'on se fixe et de se servir de ces choses, de cette souffrance intrinsèque et pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Pour arriver, en tout cas, à avancer ou se surpasser ou se surélever, en tout cas, pour arriver vers son objectif. Bon, je suis allé un peu loin, mais bon.
Non, c'est une très belle réflexion. C'est une très belle réflexion. Du coup, ça reprend plein de questions que j'aurais voulu te poser, donc tu y réponds toute seule, donc c'est génial. Et moi, ce qui me vient en tête, je te l'avais posais tout à l'heure en off et je te la repose là. Du coup, c'est quoi le conseil ou les conseils que tu donnerais à ton ancien toi?
C'est vrai que ça m'a fait rire quand tu m'as posé la question. La première chose, c'est en fait le processus, tu le connais. Il y a un process en fait pour se qualifier pour les jeux. Il y a un process pour arriver à un objectif. On a un objectif, comment se donner les moyens d'y arriver. Donc on se pose sur un papier, enfin beaucoup d'athlètes font ça en tout cas. Couche sur un papier, ben, tu mets ton objectif, tu mets les étapes à valider pour y arriver. Donc voilà, Jeux Olympiques, ok, Championnat du Monde, Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat de France, etc. Jusqu'à la compétition de Paris, tu vois. Et en fait, tu regardes où tu en es aujourd'hui, tu regardes ton niveau aujourd'hui. Par contre, il faut être franc avec soi-même. Des fois, ça fait mal à la gueule, mais il faut, sinon ça ne marchera pas. Tu regardes qui sont les premiers, les premiers concurrents, en fait. Tu regardes leur niveau. Tu regardes la différence avec chacun, entre toi et chacun. Ce qui fait qu'eux, à ce moment-là, ils te dégomment, en fait. S'ils sont devant toi, c'est qu'a priori, ils sont plus forts que toi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au moment où tu les croises, ils sont plus forts que toi? Ce qui change, donc tu le notes aussi, ça aussi. Et puis, petit à petit, en fait, tu valides ou pas tes étapes. Donc, soit tu les valides, soit tu les valides pas. Et dans ce cas-là, tu corriges le tir. Donc, le process, je le connais. Maintenant, tu le connais et puis tu l'aimes parce qu'on a besoin de ce process, en fait, dans le sport. On a besoin d'avoir ces espèces de rituels, ces règles aussi qui nous permettent... On a besoin de folie aussi pour changer et sortir de notre zone de confort et faire un truc de fou au dernier moment. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé, comme beaucoup d'athlètes, de faire un truc que même je pensais pas être capable de faire et qui, au dernier moment, paf, tu sors ça et toi, ça t'impressionne un peu après, mais surtout sur le coup, la nana, tu la fracasses. Donc, moi, je me dirais, tu connais le process et tu l'aimes, alors fais-lui confiance, déjà. Et puis surtout, ne mets pas de doute sur des choses qui n'ont pas besoin d'avoir de doute. C'est-à-dire que si tu sens quelque chose, fais-toi confiance, en fait. Encore une fois, je pense que c'est comme dans le recrutement. c'est très con, mais moi, j'y crois, en fait. C'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, en fait.
J'allais te le dire,
c'est très con, mais c'est vrai. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, ouais.
Bah, écoute... Trop stylé. Je pense qu'on va boucler sur cette petite interview, Sarah. Je pense qu'il y a plein de grosses punchlines là-dedans, là, piquées partout, mais c'est très stylé. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui, je sais, n'est pas forcément facile. Mais, on va passer à un truc un peu plus fun là, à la fin. Là. Attends, on va repartir, ça va être bien. On va passer avec les questions sur la mention. J'ai hâte d'avoir tes réponses.
Question pour la mention.
Et donc, première question, Sarah, c'est quoi pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Alors c'est bizarre, j'en ai pas parlé ce soir, mais je dirais la confiance en un.
C'est bizarre, j'aurais jamais cru que t'allais dire ça non plus.
Donc ouais, la confiance, bien sûr, bien évidemment, aussi bien en soi que les autres, qu'avec nos partenaires, enfin de vie. Donc la confiance, la communication, parce qu'en fait, quand il y a aussi bien des non-dits ou des choses sur lesquelles on se comprend pas, en fait, des fois il y a des projets qui capotent parce que un tel a compris A, l'autre a compris A prime et l'autre B. C'est très con, hein, mais en tout cas, être en mesure de parler le langage de l'autre et de se comprendre, donc la communication. Le partage. En l'occurrence, surtout avec les jeunes qui. Pour moi, c'est important parce que. Quand j'ai commencé à performer en équipe de France, j'étais très jeune, j'étais en avance sur mon âge. C'est que le truc, c'est que j'étais pas la bienvenue, je rentrais pas dans les codes. J'étais la seule noire aussi, donc ça, on essayait de me faire baver là-dessus, mais oui, je suis noire en fait, donc ça marche pas en fait. Je venais de la Guadeloupe, donc je venais quand même très loin, je rentrais pas chez moi le week-end, etc. J'étais dure parce que j'avais morflé et que je morflais en fait et que j'avais un objectif et que je voulais atteindre. Donc je rentrais pas du tout dans les codes, j'étais vraiment différente des autres et Et j'aurais aimé, en tout cas à ce moment-là, parce que je sais que d'autres étaient passés par là, j'aurais aimé qu'on me dise, en fait là, il risque de se passer ça. Là, tu risques d'être bloqué par ça. Là, tu risques de morfler sur ça. Mais accroche-toi, en fait. Et j'ai pas eu cette occasion de vivre ça, d'avoir des conseils des anciens, en fait. Mmh. Ouais. Et là, aujourd'hui, en tout cas, pour moi, c'est important. Donc, la troisième vertu, en tout cas, du moins, pardon, ce serait le partage. Le partage avec les plus jeunes, qui, pour moi, partage vaut aussi pour éducation. Et être en mesure de leur dire, ça va pas être simple. Là, on va te mettre des bâtons dans les roues, mais il faut que tu t'accroches. Moi, j'ai vécu ça. Ça a été un frein. Peut-être que pour toi, avec ta personnalité, peut-être que ça marchera ou ça marchera pas. Mais j'aurais aimé, donc du coup, c'est aussi pour ça que je le fais et que parfois je vais dans des collèges ou des lycées voir des jeunes parce que c'est important en fait.
Trop stylé. Confiance, communication, partage.
Right.
Validé. Next question. c'est quoi ? Est-ce que tu as. Non, pardon, pas c'est quoi ? Est-ce que tu as un livre, un film, une série, un podcast, un truc que tu as kiffé ?
Alors, j'ai pas mal de choses. Je vais essayer de faire une réponse succincte. Ça me changera. Donc, je viens de commencer l'assignation, d'ailleurs, cette semaine. Mais j'en parle pas encore. Côté bouquin, je dirais Open d'André Agassi, que j'ai acheté récemment, que je commence à manger aussi. Open d'André Agassi. Je dirais L'échec aussi de Pépin. Ouais, je crois que c'est Charles Pépin, je m'en rappelle plus.
Les vertus de l'échec.
Les vertus de l'échec,
ouais.
Parce que je l'ai rencontré il y a un an d'ailleurs. Ne reste pas à ta place de Rokia Diallo et surtout Option B de Sheryl Sandberg qui est la COO de Facebook. Alors comme je disais, j'ai perdu mon père récemment et en fait quand j'ai lu ce bouquin, elle venait de perdre son mari de manière assez brutale en fait. Et j'avais l'impression qu'elle m'avait interviewé pour son bouquin. Je me dis, Cheryl, quand même, ce sont exactement les mêmes mots que j'ai utilisés, en fait. C'était ce bouquin, j'ai mis un peu de temps à le lire. Il était violent parce que c'était dur et qu'on est dans une société où on ne nous apprend pas, en fait, à gérer ça, en fait. On ne nous apprend pas que, même si on sait que ça va arriver à un moment donné, mais on n'est pas prêt, en fait. Je pense qu'on ne le sera jamais, mais on n'est pas dans une société où on parle de ça, en fait. On parle d'un père qui part, enfin, qui disparaît, des choses de ce genre. Et ce sont les mêmes mots. Enfin, voilà, c'était un bouquin assez dur à lire et assez intéressant. J'ai une voix un peu frêle là, mais ça va. Sinon,
Option B, du coup, tu dis.
Option B, ouais.
Ok. Ouais, qui est là, d'ailleurs. Je vois très bien ce genre de bouquin où tu lis une page et t'es obligé de la refermer et de souffler. Tu dis, attends, oula, je viens de lire un truc là. Attends, je vais le digérer avant de passer à la suite là. C'est ouf. Ouais. Ouais, je vois. Puis ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 16 de Tom qui était venu témoigner aussi, qui a perdu son papa il y a 2-3 ans, c'était 2016 je crois, que je dis pas, 2018 pardon, et qui à la suite de ça est parti en voyage et tout. Très beau témoignage aussi de Tom, okay. Plein d'émotions, un peu comme toi là quand il en parlait, on sentait les yeux
ça
un peu humides.
Ça change la vie, hein.
Ça
remet vraiment d'équerre je trouve. Les choses n'ont plus la même importance, la même valeur. En fait... vraiment, moi, pendant un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je me fais chier à Paris à croiser parfois des cons, à m'emmerder avec des... Enfin, alors qu'en fait, c'est pas ça, la vie. Moi, j'aime taffer, j'aime mon taf. Et peut-être qu'en fait, j'ai peut-être pas besoin de passer 10 ou 12 heures par jour, en fait. Peut-être que je peux faire autre chose, en fait. Peut-être que j'ai appris des choses, peut-être que je peux les partager avec, encore une fois, les plus jeunes. J'ai une préférence pour les plus jeunes, hein, au niveau partage et éducation, parce que ma phrase de début de phrase est très bizarre. Donc, parce qu'en fait, ce sont des adultes, ce sont les futurs adultes, et surtout donc les futurs votants. Hein, on est quand même dans un monde aussi où on a de plus en plus de pays un peu extrémiste. C'est aussi à nous d'impulser le changement et le changement se fera aussi très certainement par eux. Donc c'est aussi pour ça que je m'intéresse beaucoup au partage et à la communication avec eux. Donc moi ça m'a dévasté. Pendant 2 ans, j'étais une loque Et ce qui m'a sauvé, entre guillemets, alors déjà, j'en parlais pas parce que les personnes autour de moi faisaient... C'était pas du tout le sujet de ton podcast, mais je vais en parler quand même.
Vas-y.
Les personnes autour de toi, en fait, ils savent pas comment faire, comment t'approcher, alors que vous n'êtes pas obligé de vous sentir... La douleur, la souffrance est horrible. Elle est là et elle est quotidienne, en fait. Elle marche avec nous, elle se couche avec nous, elle se douche avec nous. Cette souffrance, cette putain de souffrance, elle est toujours là. Elle le sera tout le temps. Mais les personnes autour de nous cherchent à trouver une solution alors qu'ils ne la trouveront jamais. Juste votre présence suffit, en fait. Votre présence suffit. Cherchez pas à faire quoi que ce soit, en fait. Votre présence suffit. Et à un moment, j'en parlais plus parce qu'au bout de 6 mois... Quand une pote me dit « Mais qu'est-ce que t'as ?» Et je lui dis « Bah ouais, je pensais à mon père. » Bah oui, je venais de le perdre. Elle me dit « Ah ouais, encore ?» Et là, je lui dis « Ah ouais, en fait, oui, c'est vrai. Pour toi, c'était juste 6 mois, c'était pas ton père. Mais en fait, moi, ces 6 mois, c'était comme si c'était hier, en fait. Ça change absolument rien, cette notion de durée, de absolument rien. » Et ensuite, la colère, enfin bon, bref, etc. Mais tout ça pour dire que oui, moi, j'avais l'impression que le monde s'était effondré. Et je vais revenir à la première question parce que du coup, je ne veux pas trop rester là-dessus. Donc, le bouquin, et au niveau média...
Tu as donné 3 bons là.
Au niveau média, alors moi, j'apprends beaucoup sur YouTube. Et côté podcast, tout ce qui touche le growth hacking et le product management, puisque je suis en train de changer de boulot justement.
Trop bien.
Donc voilà. Et après, je suis... alors là, c'est un vrai souci parce que je suis une dévoreuse de séries, quoi.
OK.
Donc, des séries... je sais pas, Mindhunter, The Last Dance, là,
ah ouais,
l'époque Jordan Bulls.
Ah ouais,
j'ai pas encore vraiment tout mangé, donc... mais c'est mon époque et je kiffe, tu vois, Iverson, Pippin, enfin tout le monde, quoi. Donc ça va être cool. Et après, The Game Changer, sur le lobbying de la viande... Alors, en plus, moi, en étant athlète, alors moi, ce truc m'a mis une claque, hein, parce qu'en étant athlète, je pense que depuis tout petit, on te dit, il faut manger des protéines animales, il faut manger de la viande, il faut manger des œufs, aussi bien pour la récupération, pour être fort, pour avoir un muscle. Putain, c'est du lobbying, en fait. Ça m'a mis une vraie claque. Aujourd'hui, on sait et on se rend compte, en plus de tout ce que ça génère, hein, pollution, etc., mais la viande, en fait, c'est pas très bon pour l'homme, en fait. Les
si
maladies
tu veux,
et autres.
Si t'as pris la claque droite avec Game Changers et que tu veux prendre le retour, je te conseille Cowspiracy, qui est aussi sur Netflix. Cow comme la vache, qui est un peu c'est aussi un peu dans le même lien Game Changers, mais au lieu d'avoir l'aspect de performance sportive, on a vraiment plus l'aspect écologie.
Ah,
et
okay.
Très intéressant. C'est les deux, ils sont assez en lien. Quand t'as fait un, tu peux faire l'autre.
Ah bah oui. Ouais. Ah oui, là, ça me dit bien.
On ne demande pas mon avis, mais je le donne quand même. Hein. C'est mon podcast, je fais ce que je veux.
Et... Ah ouais, ok. Ouais,
non, mais
game
trop
changer.
Cool. Game changer. Très bon, très très bon.
Et puis... Alors, il y en a deux. Et les deux derniers, ce serait, je ne me rappelle pas le nom, Derrière les écrans de fumée ou nos écrans...
Un truc comme ça.
Ouais,
il est sorti récemment,
ça.
Je crois.
Ouais.
Exact.
Ça aussi, bon, même si on sait, hein, là, c'est bien aussi de l'entendre. Et un truc... alors, j'ai bien aimé Dexter, même si ça n'a rien à voir avec moi. Mais House of Cards aussi, dans le même style. Ou justement, parce que c'est assez proche aussi du témoignage que j'ai fait, en fait, c'est malgré... on sait que c'est tordu, hein. On sait que c'est tordu, on sait qu'ils sont capables...
La politique, ouais.
Ouais, que moralement, c'est vraiment pas terrible, cette série. Mais pourtant, elle te tient en haleine. Et puis surtout, malheureusement, elle rappelle que beaucoup sont capables du pire, en fait, pour arriver à leurs objectifs.
C'est drôle. Il avait sorti ça aussi, Grégoire Gambato de Germinal, sur le podcast.
J'aime beaucoup, d'ailleurs.
Ouais, Greg, okay. Il avait sorti aussi House of Cards, qu'il avait un peu repensé son cadre moral à l'issue de ça.
Ouais.
Bon, bah écoute, on va finir avec la dernière question. C'est sans doute la question sur les médias la plus longue qu'on ait eue chez Phoenix, mais c'était très bien comme réponse. Tu nous en as donné... les gens, ils en ont pour un mois de série, de podcast et de bouquins, mais c'est magnifique. C'est quoi ton prochain objectif, Sarah, que tu t'es fixé?
Alors, j'en ai deux gros. Le prochain, je vais changer de boulot, donc je vais souffler un petit peu, quelques semaines. Et donc, changement de boulot, voilà, c'est ça. Changement de profession, en fait, c'est pas juste d'employeur, mais de profession.
Tu t'en vas du product, du coup.
Du product, toi, plutôt product management. Alors, moi, pendant longtemps, il n'y a pas mal de petites choses que j'ai aimées un peu à droite à gauche, et pendant longtemps je me suis dit mais en fait je m'éparpille, et en fait je me rends compte aujourd'hui que j'ai toujours aimé que tout ça, ça se traduit dans un métier, enfin au moins un, qui est le product management en growth en fait. Donc j'aime le growth hacking, j'aime le digital, j'ai toujours aimé le produit et l'aspect, en fait ce qu'on est capable de faire avec tel ou tel produit ou comment l'améliorer. Et j'ai découvert cette année, au moins en 2020, que c'est vraiment ça. Donc ça, c'est bien. Donc changement de taf. Et la deuxième chose, ça ne sera pas pour tout de suite, mais quand même, c'est deux projets, enfin plusieurs projets. Alors je ne sais pas sous quelle forme, hein, association, fondation, enfin peu importe, ce n'est pas ça le plus important. Mais quelque chose en tout cas qui peut rappeler aux plus jeunes de mon île, en tout cas de la Guadeloupe, parce que c'est une île qui m'a beaucoup porté et apporté. Et j'ai aussi envie et besoin de redonner, mais réapprendre aux jeunes, en fait, aux plus jeunes en tout cas, à manger correctement, à se faire confiance, parce que c'est aussi important, à reprendre une activité physique, etc. etc. Et aussi à se dire, ben, en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de taf là-bas, le chômage est quand même assez important, il est quand même possible de faire des choses, non seulement avec le no-code, le web design, le web, ce qu'on veut, qu'on peut être en Guadeloupe et bosser pour quelqu'un qui est en Australie, surtout de nos jours, en fait, en plus avec le Covid et ce qui se passe, même si là-bas, ils ne sont pas confinés, mais qu'il y a des possibilités, en fait. Et tout ça, j'aimerais arriver à faire ça, entre guillemets, en tout cas, de manière gratuite pour eux, et faire aussi des événements avec des sportifs, des artistes, pour justement leur dire à ces plus jeunes, bah en fait, on vous a dit que ça ne va pas être simple, vos parents vous disent de bosser, ce n'est pas pour rien. À l'école, par exemple, il y a moyen, même si on est à 8000 km, il y a moyen de faire des choses. Et puis en plus, on est à 8000 km de Paris, mais on est plus proche de New York. On n'est pas loin de Montréal. Il y a Barbade qui est à moins d'une heure, Miami à 45 minutes. Enfin, il y a des choses à faire en fait dans la Caraïbe et qu'on peut s'en sortir en fait. Donc j'aimerais bien arriver à faire ça. Et pour ça, pour que tous ces projets soient de manière entre guillemets gratuite pour eux, ou monter une agence en tout cas, qui prenne tout en compte, que ce soit le growth, le product management, du MVP, enfin vous venez avec une idée et puis vous repartez avec un truc, et l'argent en tout cas sert en tout cas à des jeunes, quoi. Voilà.
Trop bien, un incubateur.
C'est pas encore
en gros,
fait, mais,
peu,
mais ouais. Je suis à fond.
Trop stylé. C'est tout le mal qu'on le souhaite. Avant qu'on se quitte, Sarah, parce qu'on aurait pu rester là pendant des heures, je trouve papoter, il y a un petit rituel de fin. Et chez Phoenix, c'est est-ce que tu peux résumer tout ce qu'on s'est dit là en une phrase idéalement ?
Waouh. Bah non. Non, c'était simple. Ce que je pense est le plus important, c'est encore une fois, on est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire au sens propre. Donc on est tous capables de switcher. Ayez un objectif, croyez en vous, enfin en moi, des personnes que j'ai croisées qui m'ont dit que j'y arriverais pas. Ah oui, en une phrase. Alors, on est tous capables de faire quelque chose d'extraordinaire. Mettez-vous un objectif, croyez en vous et puis switchez. C'est-à-dire passez à l'action et on y va, quoi. Voilà.
Trop cool. Franchement, merci beaucoup, Sarah, pour ce temps. C'était hyper sympa, hyper inspirant sur ton parcours et tout ce que tu as pu dire. Tout le meilleur pour toi, pour la suite, sur tous les objectifs que tu t'es fixé là. Et puis, on se dit à bientôt.
À bientôt.
Cool, ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi, parce que clairement, le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.